Luc, on est tout ouïe, que le Seigneur te conduise vraiment dans ce que tu as à nous partager.
Voilà, ça fait drôle aujourd'hui, hein, on est pas beaucoup. Donc il y a une voiture qui est partie hier, une voiture de jeunes pour la convention France Lève-toi à Lyon. Et il y a aussi Raphaël aussi, qui est une autre voiture qui est partie vendredi pour Lyon. Donc on a plusieurs là qui sont à cette convention. Donc des nouvelles aussi de Manuela, donc je l'ai tous les jours au téléphone à 15h et là-bas c'est 8h le matin. Donc c'est très intense, hein, c'est cette conférence au Mexique. Donc la formation, elle a pratiquement terminé, ils étaient une soixantaine de différents pays du monde. Et cette formation, il y a autant d'enseignements que d'onctions du Seigneur. C'est le matin, l'après-midi, donc là, ça commence à 9h le matin. Et ça termine à 18h le soir. Et parfois, il y a des soirées donc de l'église en plus. Donc, c'est vraiment sans arrêt. Il fait très chaud. Mais en même temps, cette présence de Dieu est extrêmement extrêmement forte, quoi. Les vies sont changées, hein. Il y a eu un mail de Roland, là, aussi, qui explique qu'il est, resté par terre combien de temps, là 12 heures d'affilée. Enfin, c'est des opérations du Seigneur extrêmement fortes. Et en même temps, un esprit de révélation. Et tout à l'heure, on priait pour les nations. Et il y a quelque chose qui est revenu très fort là-bas, que nous avions déjà reçu ici plusieurs fois. Mais je rappelle cette vision de 1988, lorsque on priait, c'était par rapport aux écoles, et on priait pour... Et il y a eu cette vision de points lumineux, hein, sur toute la France, ensuite qui déferlent sur l'Espagne, et ensuite sur toute l'Afrique du Nord. Et dans cette intercession, il s'agissait d'écoles chrétiennes, d'implantation d'écoles. Et puis, on a cherché ce lien avec l'Espagne, on l'a cherché, on y est allé, moi j'y suis allé avec Manuela, elle a de la famille, et puis il n'y a jamais eu vraiment des relations qui se sont faites. Et on s'est dit, mais l'Afrique du Nord, il y a des relations qui ont commencé, que ce soit avec Pierre Kranga, avec l'Algérie aussi, où j'ai pu aller. Mais voilà, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qui manque encore? Et puis là-bas, donc il y a toutes les nations représentées, et ils ont eu un temps d'intercession pour la France, et en mettant donc Manuela et puis Roland, les deux Français représentants. Et puis là, de nouveau, c'était le même genre de parole, c'est-à-dire la France, Dieu veut l'utiliser pour les pays du Sud, Espagne, Italie, et très fortement, quoi. Et je crois qu'on n'est encore pas rentré là-dedans. Et Emmanuela, qui est moitié italienne, moitié espagnole, ça fait longtemps que je sais qu'elle incarne quelque chose. Et il y a, au milieu de nous, il y a des racines italiennes et des racines espagnoles également. Et je crois que l'esprit de résurrection, il veut toucher ces racines afin qu'on soit une bénédiction pour ces nations. Alors on ne sait pas trop comment ça va se faire. Pour l'instant, c'est qu'au stade de prophétie, d'intercession. Mais en priant par rapport au Mexique, j'ai vu comme une autoroute entre l'Amérique du Sud et l'Espagne. Et j'ai partagé ça avec d'autres, avec Sam Matthews. Et pareil, il me dit pareil. Il me dit il y a effectivement un pont. Et il m'a raconté, Sam, cette intercession qu'il a vue pendant des années pour l'Espagne, mais qui n'a jamais abouti avec les yeux de la chair, quoi. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a rien eu, contrairement à la France, où il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, je vous dis ça parce que je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer. Albert.
Là, je viens de me rappeler, là, par rapport à ce qu'il dit, que l'Espagne a été occupée par les Arabes 7 siècles. Et dernièrement, j'ai entendu que l'Espagne leur appartient. Alors, il y a des incantations très fortes de la part des Arabes pour réoccuper l'Espagne. Alors, c'est un combat énorme qui se prépare, quoi. Alors, c'est sûr que au niveau chrétien, il y a des prières pour évangéliser l'Espagne, mais il faut savoir que derrière, il y a des incantations terribles. terrible. Alors je crois que c'est à force d'intercession que l'Espagne va s'ouvrir au Seigneur. Ah, voilà, donc ça m'est venu, effectivement, il y a quand même... Et alors, et c'est vrai, dans un article, je l'ai lu, que l'Espagne, puisque quelque part les Arabes, on regarde dans les matchs de foot, bon, ça n'a rien à voir peut-être, mais quand ils marquent un but, ils embrassent par terre, le sol français, ça veut dire que le sol leur appartient, la terre française leur appartient, c'est ça. Et dès qu'ils peuvent planter un drapeau, pour l'islam, eh bien, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose d'acquis, quoi. Ouais, donc, faut faire
le rapport. En tout cas, voilà, c'est effectivement un combat. Et ils ont une notion de la terre, une théologie de la terre qui est très, très forte, c'est-à-dire une vision pas seulement de Allah qui est dans le ciel, mais qui veut prendre la terre. Et au niveau des Écritures, rappelez-vous, il y a 2 ans, on a vraiment enseigné là-dessus, mais Dieu, notre Dieu est un Seigneur aussi, qui toute la gloire remplit la terre, hein, et la connaissance éternelle remplira la terre, et nous sommes sur terre, et donc on n'est pas que des, vous voyez, que des esprits, non, le Seigneur veut qu'il y ait des choses concrètes qui se passent au niveau de cette terre. Alors voilà, je vous livre ça parce que je crois qu'on a un rôle à jouer. Ça ne m'étonnerait pas que dans les années qui viennent, il y ait vraiment des choses très très fortes qui s'ouvrent par rapport à ces nations-là. D'où l'importance d'être à notre place et de faire ce que Dieu nous demande. Vendredi soir, pendant le tabernacle, il y avait cette parole du psaume 2, « Demande-moi l'héritage des nations ». Et il y a une prière en particulier pour la France, mais au-delà aussi pour les nations. Et aujourd'hui, c'était pour les nations. Et je crois que le Seigneur veut utiliser son Église pour qu'elle prie ce qu'il prie lui, voyez, pour qu'elle fasse ce qu'il fasse lui. Et c'est ça une Église prophétique. Elle veut pas faire ces petits programmes parce que c'est une Église et qu'il faut faire des programmes. Et on cherche à faire ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu, il regarde aux nations en ce moment, il regarde aux nations, et il veut qu'on soit aussi une feuille de guérison. Et l'Alsace est une terre qui peut être amenée à être une terre de guérison aussi, il y a une onction de guérison pour les nations. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous commencer par une prière, et une prière qui date du 4e siècle. C'est la prière d'un homme qui habitait au pays de Galles et qui a été tout jeune enfant pris comme esclave en Irlande. Et pendant ces années d'esclavage, il a rencontré Dieu. Et c'est devenu Patrick, on appelle, qui a été ensuite en France, formé à Auxerre, et puis qui est retourné donc en Irlande, cette fois-ci en tant qu'évangéliste. Et il n'avait rien, il avait tout perdu, il a, si vous voulez, pas de maison, pas de rien. Mais dans cet esclavage, il a rencontré celui qui est tout. Et ensuite, il a été le moteur pour une vision d'évangélisation pour toute l'Europe. Et ça a été les fameux moines irlandais qui sont venus au 5e, 6e siècle, qui ont évangélisé l'Alsace. Par exemple, vous avez ici l'abbaye de Muirbach qui a été fondée par des moines irlandais. Et ces moines-là, ils ont été touchés par Patrick, un jeune garçon qui a tout perdu, qui était vendu comme esclave et qui a rencontré Dieu. Et j'aimerais vous lire cette prière parce qu'elle commence par un mot qui est le mot de Pâques. Le Pâques, c'est Jésus qui se lève d'entre les morts. Et cet homme-là, Patrick, il dit « Je me lève aujourd'hui ». Et je crois qu'en ce jour de Pâques, il y a quelque chose de Dieu qui nous dit « Lève-toi ». Et voilà ce qu'il dit, « Je me lève aujourd'hui par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance à la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de la naissance du Christ et de son baptême, la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau, la force de sa résurrection et de son ascension, la force de sa venue au jour du jugement. Je me lève aujourd'hui par la force des ordres des chérubins, dans l'obéissance des anges, dans le service des archanges, dans l'espoir de la résurrection, dans les prières des patriarches, dans les prédictions des prophètes, dans les prédictions des apôtres, dans la fidélité des confesseurs, dans l'innocence des vierges saintes, dans les actions des hommes justes. Je me lève aujourd'hui par la force du ciel, lumière du soleil, éclat de la lune, splendeur du feu, vitesse de l'éclair, rapidité du vent, profondeur de la mer, stabilité de la terre, solidité de la pierre. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, puissance de Dieu pour me soutenir, intelligence de Dieu pour me conduire, œil de Dieu pour regarder devant moi, oreille de Dieu pour m'entendre, parole de Dieu pour parler pour moi, main de Dieu pour me garder, chemin de Dieu pour me précéder, bouclier de Dieu pour me protéger, armée de Dieu pour me sauver, des filets des démons, des séductions des vices, des inclinations de la nature, de tous les hommes qui me désirent du mal, de loin et de près, dans la solitude et dans la multitude. J'appelle aujourd'hui toutes ces forces entre moi et le mal. Contre toute force cruelle, impitoyable qui attaque mon corps et mon âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les lois noires du paganisme, contre les lois fausses des hérétiques, contre la puissance de l'idolâtrie, contre les charmes des sorciers, contre toute science qui souille le corps et l'âme de l'homme, que le Christ me protège aujourd'hui, contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance à la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Ça, c'est une prière, vous comprenez? Ça, c'est une prière. Et voyez, pourquoi est-ce que tu t'es levé ce matin? Et parfois, dans la vie, il y a des moments où on n'a pas envie de se lever. Et le Christ, lui, il s'est levé d'entre les morts. Et c'est cette vie, la Bible dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même qui vit en nous. C'est le même. Et donc, on a deux choses en nous. Il y a quelque chose qui nous dit « couche-toi », et puis il y a quelque chose qui nous dit « lève-toi ». Et ça, c'est... Alors, il aurait pu... Moi, je dis, mais cet homme-là, il aurait pu se plaindre. Être esclave pendant des années, avoir été séparé de ses parents, de ses frères et sœurs, il aurait pu se plaindre. Mais non seulement il ne s'est pas plaint, mais il dit « je me lève pour le Seigneur » et il a touché toute l'Europe. Ça, c'est incroyable. Et ça, vous voyez, c'est dans nos gènes. C'est le même Saint-Esprit qui a touché cet homme, qui en a fait un évangéliste. Et bien, c'est le même pour nous aujourd'hui. Et dans ce « je me lève », eh bien, le « je me lève » de Jésus, il est en nous. Il y a cette voix du Saint-Esprit en nous qui dit « je me lève ». Alors, j'aimerais qu'on prenne la parole dans 1 Corinthiens 1, au chapitre 1 et verset 30. Un seul verset ce matin, et ça nous parle de la puissance de ce que Jésus a fait, résumé en un verset extraordinaire. Alors peut-être à partir du 27 déjà, on va lire, hein, 1 Corinthiens 1, 27. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc voilà simplement le message ce matin, c'est sur ce verset, Jésus qui était fait pour nous, eh bien sagesse, justice, sanctification, rédemption. Dieu choisit les choses faibles. Et donc je crois vraiment qu'il aime les choses faibles. Alors parfois il nous affaiblit, il affaiblit ce qui en nous se croit fort. C'est toujours pareil. Et dans cet état de faiblesse, et comme un Moïse, hein, lui le prince d'Égypte, un prince d'Égypte qui au bout d'un moment dit « Mais Seigneur, moi je ne suis pas capable, je ne veux pas, je suis pas, ils ne vont pas m'écouter, je ne sais pas parler, ils ne vont pas m'entendre. » Donc Dieu a fait d'un prince, Moïse, un homme faible. Et il a dit, maintenant je peux t'utiliser. Et la croix de Jésus, c'est l'instant de faiblesse extraordinaire de Dieu. Imaginez celui qui règne, celui qui a tout pouvoir, toute autorité, cloué sur une croix. C'est l'instant de la plus grande faiblesse, et c'est le même moment où il y a la plus grande faiblesse qu'il y a la plus grande force. Et ça, c'est la façon de faire de Dieu. C'est assez étonnant. Et moi, parfois, je vois, je dis, mais Seigneur, on est si peu, on est un petit nombre, que ça soit à l'école, que ça soit à l'église, et il y a une si grande vision. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Et parfois, cette vision, elle peut écraser, parce qu'on se dit, mais c'est... On peut pas si peu. Et puis en même temps, Dieu dit, mais moi, c'est ma manière de faire. Moi, je choisis les choses faibles. Et alors, Jésus, il est dit qu'il a été fait pour nous, donc sagesse, justice, sanctification, rédemption. Il est dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et ça, nous avons un Dieu qui veut se glorifier lui-même. Saint Matthieu nous a dit, voilà, la gloire de l'Éternel, elle remplit toute la terre. Et donc cette gloire, parfois on la voit pas. Et Dieu veut ouvrir nos yeux pour qu'on puisse la voir, afin qu'on se glorifie pas, mais qu'on le glorifie lui. Nous avons été créés dans un but, c'est le glorifier lui. C'est le but de Dieu, c'est ça. On a été créés pour le glorifier, pour lui rendre gloire. Alors, on est vraiment à l'opposé de tout ce qui concerne toutes les religions. On parlait de l'islam, tout ça. C'est toujours cet effort pour atteindre Dieu, mais Dieu, lui, il a atteint l'homme en se faisant homme avec nous. Dans l'expression, regardez, il est dit en Christ. Il est dit ceci, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, en Christ. Je sais que Franck a parlé un peu de ça, de la notion d'être en Dieu. Saint Matthieu nous l'a rappelé d'une certaine matière. Mais être en Dieu, en Christ. En Christ, on a tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Être en Jésus. Le en Jésus, vous prenez une concordance. L'apôtre Paul, combien de fois il rappelle cela? En Jésus, vous êtes en Jésus. 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher, comment? En Christ, vous voyez, en Jésus. Voilà, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Plus loin, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en Jésus. Et plus loin encore, béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comment ça? En Jésus. En Jésus. Ephésiens 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. 1:7, Ephésiens, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché. Ephésiens 1:11, nous sommes aussi devenus en lui héritiers. Donc c'est tellement important ce en lui, hein, tellement important. Et Jésus même qui dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc être en lui. Donc, tout ce qui s'est passé à la mort et à la résurrection de Dieu, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est en lui que nous l'avons. C'est pas à côté de lui, hein, c'est en lui. Et cette façon d'être en lui, qu'est-ce qui nous est donné? Eh bien, il a été fait pour nous sagesse. Ça, c'est la première chose. Il a été fait pour nous sagesse. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il a été fait pour moi sagesse. Donc, ça veut dire déjà que c'est pas à moi de chercher la sagesse, dans le sens, c'est pas moi qui l'aurai, mais c'est lui qui l'a. Lui, il est devenu pour moi. Il est devenu pour moi. Il y a un épisode que j'aimerais vous rappeler, que beaucoup connaissent déjà, parce que j'insiste souvent dessus, mais c'est cet épisode avant la croix. La crucifixion, c'est pas seulement le moment de la croix. La crucifixion, ça commence la souffrance de Jésus à Gethsémané, et ensuite, lorsqu'il a porté cette couronne d'épines. Rappelez-vous cette couronne d'épines. C'est quoi? C'est la malédiction. Et les épines de Jésus, elles sont venues sur son front. Et c'est toutes nos pensées qui sont tordues. C'est toutes nos façons de penser qui sont vaines. Sur nous-mêmes, sur Dieu même. Des fausses pensées sur lui. Des fausses pensées sur notre monde, sur qu'est-ce que l'Église, sur qu'est-ce que Dieu. Et tout ça, c'est de la malédiction, c'est des épines. Et Jésus, il a porté une couronne d'épines. Pour que nous, on puisse porter une autre couronne. Et la Bible dit... Proverbe chapitre 4, c'est la couronne de la sagesse. Cette couronne de la sagesse, c'est, la Bible l'appelle, elle nous dit, recherche l'intelligence, recherche l'instruction, et recherche plus que l'or, ça a plus de valeur que l'or, et c'est Dieu qui la donne, et c'est cette sagesse que Dieu veut donner. Donc, à la croix, Avant la croix, Jésus a payé, il a porté une couronne d'épines pour que nous, on puisse porter une autre couronne, qui est la couronne de la sagesse. Et donc, Dieu dit, voilà, je suis devenu sagesse pour toi. Maintenant, cette sagesse, elle doit se prendre. Elle se prend. Jésus nous dit, voilà, tu prends tout ce que je t'ai donné, et c'est par la foi que tu le prends. Et cette sagesse, elle est à prendre. Et le peuple de Dieu, moi je crois que là nous avons un des points de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection qu'on a tellement laissé de côté. Il a payé le prix pour que moi-même, nos enfants, on puisse être abreuvés d'une autre sagesse. Voyez ? Donc, ce qui s'est passé à la croix, c'est tellement important. Il est mort et ressuscité pour nous transmettre, entre autres, une autre sagesse. Et cette sagesse, elle ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve en lui. Elle se trouve dans la révélation, dans sa parole. Et cette sagesse, c'est la sagesse d'un Salomon, c'est la sagesse qui connaît Dieu, mais c'est la sagesse qui gouverne sur la terre aussi. C'est la sagesse qu'a demandé Salomon. Seigneur, demande-moi de la sagesse pour gouverner ce peuple. La sagesse, c'est comment vivre, apprendre à vivre, c'est faire des choix dans la vie. C'est se comporter, etc., dans la vie, d'une certaine manière. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et vous savez, dans ce monde, il y a deux sagesses. Une sagesse qui vient d'en bas et une sagesse qui vient d'en haut. Et Jésus a payé le prix pour nous connecter avec une sagesse qui vient d'en haut et dont on peut s'abreuver et vivre. Dans ce verset-là, nous avons déjà, mais ce n'est pas le sujet ce matin, mais quand même, une petite partie, nous avons là, à mon sens, le fondement de l'importance du mandat qui était donné à l'Église d'enseigner les nations. Enseigner les nations, c'est transmettre une autre sagesse. Et les nations qui enseignent, elles enseignent avec une sagesse qui vient d'en bas. Mais Dieu nous dit, voilà, mon Église, mon Fils est mort et ressuscité, pour que tu transmettes une autre sagesse. Donc voilà, être en Jésus, je me rappelle, dans 1 Samuel 22, vous avez un épisode extraordinaire. Vous avez David qui est dans une grotte. Tout le monde le cherche, pour le mettre à mort. Il risquait sa vie. Et il était dans cette grotte. Et dans cette grotte, c'était la caverne d'Adullam, il y a les frères et toute la maison de son père la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Alors là, c'est intéressant pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire en Christ. Avec lui. Ces hommes-là, au temps de David, ils avaient des dettes, ils étaient dans la détresse, c'était des gens faibles. Aux yeux du monde, c'était des gens faibles. Ils n'allaient rien donner aux yeux du monde. Et ces gens-là, ils ont fait le choix d'aller dans cette grotte, dans le désert, probablement à En Gedi. Je ne sais pas si vous êtes en Israël, mais En Gedi, c'est perdu, au-dessus de la mer Morte, vous marchez pendant des heures, et au bout de la marche, tout d'un coup, il y a des sources d'eau et il y a une grotte. Une petite ouverture. Et quand vous rentrez dedans, c'est très très grand. Et effectivement, elle peut cacher plusieurs centaines de personnes. Et là, ces hommes-là, on va les retrouver après. Et on les retrouve comment ? Comme des grands chefs de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Entre le moment où ils étaient pleins de dettes, mécontents et tout ça, et puis le moment où ils sont devenus des chefs de guerre. Eh bien, ils ont passé ce temps avec David. Et dans l'expression « en Christ », c'est quelque part aussi avec lui, c'est en communion avec lui. Et c'est là qu'il se passe des transformations. Il se passe des transformations. Celui qui est faible devient fort. Et celui qui se sentait fort, il devient faible, mais il prend sa force en Dieu. Et voilà, dans sa présence, Dieu nous communique cette sagesse. Donc voilà, ça c'est la sagesse. Alors cette sagesse, Dieu nous la donne. Il est devenu sagesse pour nous. Il y a quelque chose d'instantané qui nous est donné. À un moment donné, quand on croit en lui, il y a cette sagesse qui est là. Mais en même temps, elle est aussi progressive. C'est-à-dire que Dieu à la fois te dit, voilà, je te donne le paquet, je te donne ma sagesse. Mais maintenant, je te demande aussi de continuer à la rechercher. C'est comme le royaume de Dieu. Hein ? Lorsque tu connais Jésus, il y a le règne de Dieu qui vient dans ta vie. Alors il est là. Et en même temps, il te dit, cherche mon royaume. Donc, il est à la fois là, et à la fois Dieu dit, cherche mon royaume. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, il n'est pas là en plénitude. La sagesse de Dieu n'est pas là en plénitude. Et il te demande de continuer à la chercher. Et dans 2 Corinthiens 4,6, il est dit, « Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Voilà. Alors, la sagesse de Dieu, c'est Dieu dans toutes ses couleurs. Dans toutes ses couleurs. La France, elle transmet une certaine couleur de la sagesse de Dieu. L'Espagne va transmettre une autre couleur. Les nations qu'on a vues tout à l'heure, il y a déjà des couleurs dans le physique, mais dans l'esprit, il y a des couleurs aussi différentes. Et connaître Dieu, cette sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est infiniment variée. Elle touche les domaines de la science, elle touche les domaines de la connaissance, elle touche les domaines, tous les domaines de la vie. Et ça, Jésus a payé le prix pour qu'on puisse recevoir cette autre sagesse. Et ça, c'est, je crois qu'on n'a pas encore tout à fait découvert tout cela. Donc il y a quelque chose de progressif. L'apôtre Paul prie, par exemple, pour les croyants d'Éphèse, il dit ceci, il dit « Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez ? Voilà, sagesse. Donc, que ça soit notre cœur, ça, que ça soit notre prière. Il y a un héritage pour nous de sagesse, mais qui est venu de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors ensuite, il est dit, il a été fait pour nous justice. Pour moi, justice. C'est pas à moi de chercher la justice. La justice a été faite pour moi. Il a été devenu juste pour moi. Et ça, c'est tout le message. J'espère que Manuela, je suis sûr même, va avoir des choses à nous dire là-dessus, puisqu'ils ont été bassinés dans ce message pendant trois semaines. Et elle me disait, tu sais, Luc, c'est pas seulement le message qui touche, mais c'est l'onction qui est avec le message. C'est clair. Et cette onction-là, c'est ce qui brise tous les jougs. Donc, Jésus a été fait pour moi justice. Je suis devenu juste, comme ça, en un clin d'œil. Et ça, c'est extraordinaire. Je suis devenu juste. Nous avons dans Romains chapitre 4, verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et plus loin, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. » Alors la justice, c'est quoi ? Définition, c'est l'acte par lequel Dieu enlève la condamnation prononcée sur le pécheur et place celui-ci dans une position de juste. Souvent, on entend les prières, « Seigneur, tu as porté mes péchés à la croix. » Je vais dans beaucoup d'églises, hein, je sillonne pas mal. Et souvent, dans les prières, on entend ça, il y a la compréhension qu'à la croix, Dieu a pris nos péchés. Mais j'ai très rarement entendu la prière qui comprend qu'à la croix, on a reçu aussi la justice, la sanctification, la rédemption. Et si vous voulez, dans l'image mentale évangélique, on a la croix, voilà, je te dépose mes péchés, tu as pris mes péchés. Mais on n'a pas pris ce que lui nous donne en retour. Et en retour, il nous donne sa sagesse, il nous donne sa justice, il nous donne sa vie, son caractère, il nous donne tout. Voyez ? Donc, ce n'est pas seulement déposer. Mais c'est prendre, c'est un échange. En fait, nous avons un échange à la croix. C'est un échange qui s'est fait. Et donc sa justice à lui, elle devient la mienne. Lorsque Dieu regarde un chrétien, ce qu'il voit, c'est son fils et la justice de son fils. Et ça, ça s'obtient par la foi, la confiance en Dieu, voyez. Celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, verset 9. Pour ça, lorsque Jésus dit, regardez, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et sa justice. Il n'est pas dit seulement « cherche le royaume », mais « cherche sa justice aussi ». Pourquoi il nous dit ça, le Seigneur ? Parce que là-dedans, nous avons le fondement, l'ingrédient, pour des fondements solides, pour une œuvre, pour le ministère, pour le Seigneur. Donc, souvent aujourd'hui, on entend parler « le royaume ». Moi, ça fait depuis des années, j'entends parler le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Dieu veut étendre son royaume dans toutes les sphères de la société, le règne de Dieu. Et ça, c'est juste. Mais quelque part, il nous dit, et la justice. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, dans les mois qui viennent sûrement, on va continuer à rentrer et à baigner dedans. Nous sommes justes, nous devons nous voir comme des gens justifiés. Et vous savez, parfois on vit des galères, on lutte contre la maladie, on lutte contre parfois des échecs. Et c'est difficile parfois de garder le regard sur nous-mêmes, comme étant des gens justifiés. Et parfois, on a dérapé et on ne se pardonne pas, on a du mal à se pardonner. Et Dieu nous dit, voilà, regarde ce que j'ai fait et regarde-toi comme quelqu'un de juste. Et alors c'est pareil, à la fois nous sommes déclarés justes et à la fois Dieu nous dit, cherche la justice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a les deux en même temps? Ben parce que on a reçu une justice en Jésus, mais en même temps, il y a une pleine justice qui n'est pas encore révélée partout, mais que Dieu veut manifester et révéler. Il veut qu'on le cherche. Le royaume est déjà là, avec Dieu, mais en même temps, il n'est pas encore là. Tu dois le chercher, tu dois le rechercher de tout ton cœur. Voilà. Alors ensuite, il a été fait pour nous, sanctification. Alors là, c'est vraiment un passage étonnant. La sanctification. Pendant des années, j'ai entendu ce type de message. Alors écoutez bien, parce que ça c'est capital. J'ai entendu, voilà, le salut est gratuit, mais ensuite la sanctification c'est payant. Non mais j'ai entendu ça souvent. Hein. C'est-à-dire que, tu travailles toi-même à ta sanctification. Hein, tu dois aider le Seigneur si tu veux quelque part. Alors attention là. Attention, ce qu'on vient de lire, Dieu a été fait sanctification pour nous. Il a été fait sanctification pour nous. Alors là, on va voir. La sanctification, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a faite pour nous, comme la justice. Christ lui-même est la sainteté pour moi. Alors regardez, j'ai noté ceci, j'ai dit, si notre justice, Christ, est pour nous, dans la sanctification, Christ est en nous. Christ est notre sainteté aussi bien qu'il est notre justice. Parce que sinon, regardez un peu ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'il y a des choses que tu aurais acquises par tes propres mérites. Hein. Je suis justifié par la grâce, mais je suis sanctifié par mes œuvres. Eh bien, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est un faux enseignement. La sanctification, c'est Dieu qui nous la donne aussi. Alors vous allez voir, hein, je vais aller dans plus de détails, mais regardez, par exemple, dans Exode 19, verset 6, il est dit au futur, « Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Vous serez, donc, au futur. Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Mais vous, vous êtes une race élue, vous êtes, c'est le présent. » Une sacrificature royale, une nation sainte. Vous êtes saints. Hein? Un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes saints. Regardez par exemple, vous avez Éphésiens chapitre 5. Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier. Qui c'est qui sanctifie? C'est Jésus. C'est Jésus. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 6, « Vous avez été sanctifiés. » C'est le passé. C'est fait. Vous avez été sanctifiés. Voyez, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, voyez, la sainteté est aussi quelque chose qui nous est acquis à la croix. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser les choses... Aller laisser notre vieille nature prendre le dessus? Bien sûr que non, ça ne veut pas dire ça. Bien sûr que non, ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la sainteté est quelque chose que Dieu nous donne, mais en même temps, c'est quelque chose dans lequel on peut progresser, mais pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est ça la différence. Le Seigneur t'a donné son esprit. Par exemple, il y a un verset qui dit « Par l'Esprit de Dieu, fais mourir les œuvres de la chair. » Donc, ce n'est pas à toi, avec tes efforts, avec ta force à toi, d'essayer de faire mourir les choses. Tu n'y arriveras pas. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, le Seigneur te dit « Par l'Esprit qui est en toi, eh bien tu peux faire mourir les œuvres de la chair. » Et donc la sanctification, c'est ça. C'est quelque chose qui nous est donné. Le Saint-Esprit a été libéré à la croix. Il a été libéré par la mort et la résurrection de Jésus, qui est monté au ciel, qui a libéré son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi, eh bien, il est celui qui te sanctifie. Il est celui qui te sanctifie. On parle, par exemple, des fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. eh bien, ces fruits-là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est pas tes efforts. Et pourtant, quand tu vois les fruits de l'Esprit, tu dis, ben voilà, là, il y a la sainteté. Quand tu vois une personne qui est pleine d'amour, pleine de joie, pleine de pardon, pleine de patience, c'est la sainteté. Donc, la sainteté, c'est pas nos efforts. La sainteté, c'est le travail du Saint-Esprit en nous qui produit cette sainteté qui nous a été acquise à la croix. Cette sainteté, cette justice aussi, elle est produite aussi par le Saint-Esprit en nous. Donc, vous voyez, quand il est dit « tout est accompli », ça veut vraiment dire « tout est accompli ». Je ne dis pas qu'on a complètement tout compris, tout ce message. Mais je dis, voilà, attention, on veut toujours mettre notre patte en tant qu'homme et femme, on veut mettre notre grain de sel quelque part. Et Dieu nous dit, attention, voilà, prends par la foi ce que je t'ai donné. Il a été fait pour moi, justice. Il a été fait pour moi, sanctification. Ça, c'est extraordinaire. Et le peuple saint, vous êtes un peuple saint, dit la Bible. Vous êtes, pour ça que vous connaissez tous un peu Samuel Rhin, il appelle saint un tel, quand il appelle quelqu'un, il dit Saint-Luc, Sainte-Anne, voilà. Et en fait, nous sommes tous des saints, bibliquement parlant. Hein, c'est ça, nous sommes un peuple saint. Alors, maintenant, ce travail du Saint-Esprit continue en nous. Et ce que Dieu nous demande simplement, c'est de dire oui. Oui à son esprit. Oui à son esprit. Qu'est-ce qu'il a dit, Sam Matthews, le peuple qui dit Amen. Amen. Amen à ce que tu dis. Si on commence par râler, le travail du Saint-Esprit en nous, il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Et quand on a un peuple qui dit, ben oui, Seigneur, Amen. Oui à ce que tu as fait. Oui à ce que je vois de ta parole. Alors il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait en nous. Et puis ensuite, il est dit, il a été fait pour nous, donc rédemption. Rédemption. Alors ça veut dire rachat. Et dans la parole de Dieu, il est dit, Jésus, il t'a racheté et tu ne t'appartiens plus. Il t'a payé, il a payé. Tu lui appartiens à lui, il a payé le prix. Tu ne t'appartiens plus. Il t'a racheté, c'est-à-dire que tu es à lui. Tu es à lui. Ça, parfois à Pâques, on se dit, mais Pâques, c'est la libération, tout ça. Oui, c'est la libération. Mais en fait, de deux choses l'une, ou nous sommes à lui et nous sommes libérés de tous les dieux, c'est Dieu dont Anne parlait là, ou alors nous gardons à nous-mêmes et nous sommes dans l'esclavage de plein de dieux. Et moi, qu'est-ce qu'on choisit? Et à ce jour de Pâques, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de dire, Seigneur, eh bien, je veux, tu es mon maître, et du coup, tu me libères de tous mes propres dieux, mon propre dieu, les propres dieux. Ou alors, est-ce qu'on dit, ben non, moi, je veux garder le self-control, le contrôle de ma vie. Et du coup, on passe à côté, on passe à côté de tellement de choses. Donc, la rédemption. Et la rédemption, c'est pareil. La rédemption, c'est quelque chose qui nous a été acquis, mais c'est aussi quelque chose qui est à venir. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est fait ou c'est pas fait? Eh bien, la rédemption, tu as été racheté en Jésus, mais la Bible parle d'un jour de rédemption, dans Romains chapitre 8, Éphésiens 4. Le jour de la rédemption, c'est une libération plus grande, une libération des cieux, de la terre. Le jour de la rédemption, qui est le jour du retour de Jésus, particulièrement. Donc la rédemption, c'est aussi une espérance qui est future, hein, qui est future. Il y aura une rédemption. Et à la croix, Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité, on l'a dit souvent, pour nous, pour toi, bien que ça commence par là, mais la puissance de vie de Jésus, c'est pour la création tout entière. Et ça, on l'a souvent signalé, Jésus est mort et ressuscité, il a tant aimé le cosmos, il a tant aimé le monde, et la création soupire les douleurs de l'enfantement. Donc, la vie qui a été manifestée à la croix, lorsque il est sorti du tombeau, cette vie du ressuscité, elle passe chez les uns et les autres, née de nouveau, la vie de résurrection qui est en toi, mais cette vie de résurrection, elle continue à agir et elle aura sa plénitude parce qu'elle va toucher la terre et le ciel de façon entière, entière, et c'est ce qu'on appelle la rédemption de la création tout entière, le rachat de la création tout entière. Donc le prix que Jésus a payé, c'est pas seulement pour racheter des individus, mais c'est pour racheter toute la création. Et donc ça, c'est encore à venir. C'est pour ça que ça soit la sanctification, c'est déjà fait, et il y a encore un travail du Saint-Esprit. La justice, c'est déjà fait, mais il y a un travail encore de rendre juste, de nous rendre ce que nous sommes vraiment, de devenir ce qu'on est vraiment. Voyez, C'est comme un enfant, eh bien, il est appelé à être ceci, cela. Il ne l'est pas encore, mais tout en lui, on sait qu'il va le devenir. Eh bien, en Christ, c'est pareil. La justice, tu es déjà juste, mais ce travail de justice continue en toi. Tu es déjà saint, mais ce travail de sainteté continue en toi. Tu es déjà racheté, mais il y a encore plus que le rachat de ta petite personne, mais il y a le rachat de ta nation, il y a le rachat du monde entier. Donc, voyez, dans le rachat, il y a des cercles, c'est comme des cercles. Tu as le cercle intérieur, c'est le rachat pour l'individu. Toi-même, tu es racheté. Ensuite, il y a le rachat pour la communauté, le peuple de Dieu, un peuple nouveau qui se lève. Et puis, le dernier cercle, c'est le rachat de toute la création. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Il s'est passé tout ça. Alors, je crois que le Seigneur veut illuminer les yeux de nos cœurs, qu'on voit vraiment toute cette richesse qu'il y a là. Il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption. Si on oublie un des quatre, c'est tellement dommage. Et moi, souvent, j'insiste sur le premier, parce que c'est celui qu'on a le plus oublié. Il a été fait sagesse pour nous. Et c'est pour ça qu'au niveau des écoles et tout ça, on travaille activement, parce qu'on pense qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut, que Dieu veut utiliser son Église pour libérer une autre sagesse auprès des enfants, tout simplement. Et une autre façon de voir la justice aussi. Une autre façon de nous considérer en tant que peuple de Dieu. Voilà, tout simplement, la bénédiction d'Abraham. Abraham qui a été déclaré juste à cause de sa foi. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Le but de la rédemption, c'est quoi? Le but que tu sois déclaré juste, c'est quoi? Le but, c'est toucher les nations. Et Abraham, Dieu lui dit, voilà, je t'ai déclaré juste. Et maintenant, voilà, je t'appelle à toucher toutes les nations. Et le but pour nous, ce matin, de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est pas seulement qu'on soit racheté, nous, c'est pas seulement qu'on soit justifié, nous, c'est pas seulement qu'on soit rendu sage, nous, mais c'est qu'on soit un canal pour que notre nation et les nations puissent être touchées par cet héritage qu'on reçoit par la foi et qui nous a été donné par Jésus à la croix. Amen. Voilà, c'est des rappels peut-être pour beaucoup, mais c'est tellement important. Apprenez par cœur ce verset de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Il a été fait pour moi tout cela. Arrête de te regarder toi et regarde le Christ qui est en toi. Et ça, c'est être chrétien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce jour de Pâques où il s'est passé tellement de choses. Et on n'a pas encore tout compris, Seigneur. Mais Seigneur, dans ta parole, nous croyons que tu as été rendu juste pour nous. Et ce matin, nous déclarons que nous sommes justifiés en toi. Seigneur, tu nous as rendus saints. Et ce matin, nous disons, nous avons été sanctifiés par toi. Et Seigneur, tu nous as rendus sages. Et nous disons, cette sagesse, elle est à la croix. Et nous la prenons dans notre travail de demain, de mardi, dans notre vocation de parents, de maman, de papa. Nous puisons cette sagesse en toi. Nous avons été rachetés. Et c'est pour ça que nous ne nous appartenons plus. Mais nous appartenons à toi, Seigneur. Alors merci de nous encourager chacun. Et que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, eh bien, donne la vie à tout ce qui est encore mort en nous et autour de nous. Seigneur, encourage chacun au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Et que cette journée de Pâques soit une journée de joie, que la bénédiction de Dieu soit sur nous, que la communion avec le Saint-Esprit nous accompagne. Et Seigneur, fais de nous des instruments de guérison là où nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors soyez bénis en ce jour de Pâques. Pas trop de chocolat, hein, et par contre, plus du Seigneur en chacun de nous. Amen. Bonne semaine. À samedi prochain, 19h.